Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me, babe.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous parlons d'une étrange photographie d'Erwin Blumenfeld, intitulée « Le Minotaure » ou parfois « Le Dictateur », qui date de 1937 et dont l'iconographie inspira probablement Magritte, puis certainement Picabia. Pour en parler, je reçois dans notre émission Oula Van Brandebourg. Bonjour Oula. Vous êtes notre regardeur aujourd'hui, vous êtes une artiste, votre travail se caractérise par une grande diversité de médiums, vous avez travaillé avec le film, avec des scénographies, avec des peintures également. Votre travail a parfois des aspects anthropologiques, vous êtes intéressé à des cérémonies païennes, aussi bien en Sardaigne qu'en Allemagne, qu'en Europe du Nord, et ces questions de représentation et de scénographie vous inspirent. Vous avez dans quelques jours une exposition à la Galerie Art Concept à Paris, et l'année prochaine au Musée d'Art Moderne de Genève, le MAMCO, et également à la Kunsthalle de Hanovre. Je reçois également une grande spécialiste de Blumenfeld, puisqu'il s'agit de Nadia Blumenfeld-Charbit. Vous êtes la petite fille de Blumenfeld. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes également par votre grand-mère, la petite nièce de Citroën, le grand dadaïste hollandais, n'est-ce pas ? Donc vous êtes congénitalement dadaïste.
Je suis dadaïste et j'ai un prénom surréaliste. Mais effectivement, ma grand-mère, c'est Lena Citroën et mon grand-père, Erwin Blumenfeld.
Et Lena Citroën était, par rapport à Paul Citroën, était...
Sa cousine germaine. Également cousine d'André, qui lui avait immigré en France.
Et nous en parlerons, c'est par là que justement une grande partie des connexions surréalistes de Erwin Blumenfeld se sont faites. Surréaliste, je voulais dire dadaïste.
Oui, dadaïste, donc pendant et juste après la Première Guerre mondiale, dans le milieu berlinois. Puis dans le milieu d'Amsterdam, mais il retournait tout le temps à Berlin parce que c'est vraiment... à Berlin qu'il a pris son essor dadaïste.
Je n'ai jamais été allemand. En réalité, j'ai toujours été seulement berlinois et le suis resté. Toujours seulement berlinois. Ou plus précisément, berlinois du sud-ouest de Berlin et de l'ouest-ouest. Les autres quartiers de la ville, c'était l'étranger. Je ne suis jamais devenu hollandais. En 17 ans, je suis tout juste devenu Amstelodamois. Je n'ai jamais été français, mais toujours Montparnasse de la rive gauche. Je ne suis pas américain, mais new-yorkais passionné, Midtown, Manhattan. Je suis habitant des grandes villes dans certains quartiers des grandes villes. Les patries me sont étrangères. Erwin Blumenfeld.
Quelques images parfois correspondent à une époque, que ce soit par leur beauté, leur violence, leur lien particulier avec l'esprit du temps, ou encore par leur force intempestive ou leur grâce. C'est le cas de nombreuses photographies d'Erwin Blumenfeld qui, dans ses vies de photographe, celles d'artistes dadaïstes à Berlin et à Amsterdam, d'opposants à la montée du nazisme à Amsterdam puis à Paris, de photographes de mode à Paris puis à New York, a toujours surpris. Toujours inventé, au point que chaque photo que l'on peut voir en ce moment au Jeu de Paume à Paris amène systématiquement une idée nouvelle, une solution plastique ingénieuse, une ironie ou une fascination singulière. L'une des plus connues, celle qui est devenue l'image de la femme au milieu du XXe siècle, la fameuse couverture blanche de Vogue où un œil de biche, une bouche écarlate et une mouche judicieusement placée au coin de la lèvre suffisent à dire la beauté, la séduction, le mystère et la joie de l'artifice, cette photographie fait partie pour toujours, me semble-t-il, de notre répertoire enchanté des plus beaux visages du XXe siècle. Mais, à d'autres périodes, ce qui concerna le grand artiste ne fut pas toujours aussi sensuel. En 1933, alors installé dans le laboratoire situé à Amsterdam, à l'arrière de sa boutique de sacs pour dames, il réalise « La gueule de l'horreur », superposition d'un crâne et de la gueule d'Hitler, une croix nazie sur le front qui devint une image de propagande anti-nazie très diffusée jusque pendant la guerre. L'œuvre qui nous retient, plus particulièrement aujourd'hui, est une représentation étrange, qui paraît sous le titre de « Surréalisme » dans la revue Paris Magazine en 1937, et ensuite sous le titre « Le Minotaure » dans la revue « L'amour de l'art ». Elle est connue également sous le titre désormais le plus souvent utilisé pour cette photographie si célèbre, « Le Dictateur ». Une tête de veau est posée sur le torse acéphale d'une copie de statue antique. Le corps de marbre ou de plâtre de la statue est couvert d'un drapé noué autour du cou et qui mime une toge. L'animal, vu de face, a les yeux mi-clos, comme le regard vers l'horizon ou vers l'avenir, ou comme dans l'exploration d'un rêve éveillé. Les dents sont apparentes et composent un sourire crispé. Le personnage chimérique ainsi constitué se découpe sur un fond clair, mur ou toile légèrement craquelée. Il est d'une ambiguïté sexuelle particulière puisque c'est le sein de la Vénus de Capoue que le drapé laisse apparaître. Une autre version montre le même monstre sur la tête duquel sont posées tendrement, admirativement comme par dévotion, deux mains de femme. L'effet hypnotique de cette œuvre a été probablement renforcé par la présence insistante de la figure du Minotaure qui hante à cette époque l'avant-garde parisienne. Picasso, la revue Minotaure de Skira et Thériade, qui en porte le nom et qui commande à chaque artiste, Matisse, Magritte et d'autres, de le représenter, ou encore la revue Acéphale de Georges Bataille, qui consacre aussi en 1937 un de ses numéros dionysiaques nietzschéens. Jusqu'à Picabia, qui reprendra de façon très ambiguë la photo de Blumenfeld dans une toile intitulée « L'adoration du veau » en 1942. Or, la question qui demeure n'est pas tant de savoir si le dictateur est bien Hitler, comme on le pense parfois, ou bien un autre des acteurs de cette extraordinaire et inquiétante époque. Cher Oula van Brandenburg, vous avez observé cette photographie dans l'exposition et vous êtes aperçu de cette dramaturgie singulière avec une combinaison curieuse d'éléments. Il arrive à nous faire rentrer dans une fiction. Or, la fiction, l'entrée dans la fiction est souvent le sujet de votre travail. Comment est-ce qu'on fait démarrer, comment est-ce qu'on allume l'imaginaire? Est-ce que vous trouvez, Oula van Brandenburg, que cette œuvre, que j'appellerais Le Dictateur, on reviendra sur ces trois titres tout à l'heure, allume notre imaginaire?
Bien sûr. Et moi, je trouve que c'est intéressant que cette photo a deux titres, Le Minotaure ou Le Dictateur. Pour moi, Le Minotaure, c'est plus intéressant comme titre, parce que Le Dictateur, moi, je trouve qu'il a, la photo Hitler avec des yeux qui saignent, ou Hitler est comme un vampire, ou l'autre qui est très connu, où le crâne est superposé. Pour moi, c'est beaucoup plus fort, en fait, la tête mort superposée sur Hitler, qui amène la mort, qui a amené la mort pour tellement beaucoup de gens, et qui a mérité aussi également la mort. Pour moi, c'est beaucoup plus direct, et aussi un peu comme John Hartfield il a fait avant, avec la tête de Mussolini, que... Alors
peut-être juste un petit mot, John Hartfield, donc un extraordinaire artiste anti-nazi, qui est un des premiers grands artistes avec Grosch probablement à faire, et Schwitters à faire des collages, et ces collages, souvent attaquant très directement Hitler, Mussolini également, ont été connus, je crois, de la part de Blumenfeld, puisque l'un des collages les plus proches de cela, c'est une tête de Mussolini en 1928, où là aussi il y avait une superposition entre une tête de mort et le visage du dictateur.
Oui, et ça c'était très important à l'époque parce que le visage de Hitler était diffusé partout comme propagande et ça c'était aussi le point d'attaque évidemment direct de travailler avec son visage et du coup le Minotaure, là ça m'intrigue quand même qu'il y a cette mythe grecque derrière, le Minotaure qui est le fils du roi Minos et de Pasiphae. Et qui, en fait, Minos, il a reçu un cadeau, un très beau gros veau. Non, pas veau, taureau, plus ouais. important, taureau. Et il est censé de le donner, de le sacrifier, mais il ne le fait pas parce qu'il est tellement beau qu'il veut le garder. Et il donne un autre taureau, moins beau, moins important. Et pour lui punir, Minos, ce sont les dieux qui font que Pasiphae est attirée sexuellement par cette bœuf. Et elle veut faire l'amour avec lui, mais il ne veut pas. Et du coup, elle demande Dédale de faire un costume en bois et en peau de vache pour se cacher dedans. Et comme ça, c'est possible qu'ils font l'amour. Et le fils, c'est cette Minotaure, en fait, qui veut dire le taureau de Minos. Et après, il est emprisonné dans ce labyrinthe qui est aussi fait par Dédale. Quoi, intéressant, parce que Dédale, c'est un architecte, un inventeur, et qui sert à tout le monde. En fait, d'abord, il sert pour faire cette monstre, et après, il sert aussi pour l'emprisonner. C'est drôle et impressionnant et intéressant. Et cette Minotaure, il est dans cette labyrinthe, et après, il va être tué et tout ça, mais pour moi, c'est important. Est-ce que c'est vraiment un monstre? Déjà, une question. Ou est-ce que c'est pas plutôt quelqu'un, une figure assez tragique, parce qu'il est entre homme et animal, il est entre femme, et je veux dire, il est rien. Et du coup, aussi, ce que je trouve intéressant par rapport à la photo, qu'il a pris un tête de veau et pas de bœuf. En fait, il manque des cornes. Ça veut dire cette figure, on peut dire, et peut pas.
Elle est inoffensive, vous voulez dire.
Il n'a pas de sexe. Et oui, il est encore avant ça. Ça veut dire il est impuissant, on peut dire.
La question de l'absence de sexe, ou en tout cas de l'androgynie, par exemple, puisqu'elle a, en fait, cette figure a deux sexualités, semble-t-il. Hein, donc elle est à la fois masculine et féminine, puisque, je rappelle, cette tête de veau est posée sur le moulage de la Vénus de Capoue. Et donc, il laisse apercevoir un sein. Donc, c'est une ambiguïté qui est intéressante, je crois. Alors, peut-être que je vais demander à Nadia Blumenfeld-Charbit de nous préciser cela. Je crois qu'il y a un autoportrait qui apparaît, un autoportrait en coprésident du dadaïsme, où il est, là encore, Blumenfeld se présente sous ces deux registres.
Oui, Blumenfeld est souvent présenté sous des registres à la fois masculins et féminins. Cette ambiguïté se retrouve chez ce Minotaure. Il y a à la fois ce que vous disiez, donc c'est une carte postale qu'il avait envoyée à Tristan Tzara, où il se proclame président de la centrale Dada hollandaise. Donc il s'autoproclame président. Et il y a la tête de Blumenfeld sur un buste de femme dans un corset. Donc c'est une de ces cartes postales un peu retravaillées avec un montage photographique. Et puis il y a l'autre image. Androgyne, vous parliez tout à l'heure de Blumenfeld et de la photographie des femmes. Et effectivement, il y a un autoportrait de lui où on voit ses jambes. Il est nu, donc on le voit la partie inférieure du torse. Il a les jambes écartées. Il donne naissance à une femme. Et pour revenir un tout petit peu sur la remarque de Oula, quant à la tête de veau et non pas la tête de taureau, je pense que c'était 1937, Blumenfeld n'avait pas du tout d'argent à ce moment-là et il a trouvé cette tête de veau sur l'étal d'un boucher. Peut-être s'il y avait une tête de taureau,
il aurait pris la tête de taureau. Parfois les hasards sont utilisés par les artistes, n'est-ce pas, Oula ?
C'est écrire l'histoire après, je veux dire. Quoi, la réalité, c'est un tête de veau, et c'est ça aussi qui est intéressant.
Oui, ça ouvre un développement de notre imaginaire qui part tout d'un coup dans une autre direction. Et vous avez très bien raconté, effectivement, le contexte, au fond, mythique, à l'intérieur duquel on peut associer, en tout cas, cette image. Mais il y a deux choses que je voudrais dire et vous interroger, peut-être, là-dessus. C'est la représentation du Minotaure à cette période est très importante. Je le rappelais tout à l'heure, non seulement il y a sans doute l'admiration que Blumenfeld avait pour Nietzsche et chez qui la figure du Minotaure apparaît souvent. Le Minotaure devient le lieu même du labyrinthe, en quelque sorte. Hein. Et puis, la relation avec Ariane est très ambiguë. Et chez Nietzsche, ce Minotaure est d'ailleurs curieusement pathétique par moment, émouvant, hein, je veux dire. Et le Minotaure peut apparaître ensuite comme monstre, mais chez Borges, à quelques années de là, puisque je pense que le livre, la nouvelle sur le Minotaure, Astérion, doit être à peu près de la même période, à quelque chose près. C'est Ariane qui parle et qui dit quelque chose comme « Mais c'est étrange, le Minotaure ne s'est même pas défendu », comme s'il souhaitait cette mort. Donc il y a une ambiguïté déjà du sujet dans l'histoire. Mais en 1937, le Minotaure est là, omniprésent, et en particulier chez Magritte et ensuite chez Picabia. Je voudrais revenir une seconde sur la question de la dépouille qui apparaît très souvent à l'époque. Vous savez que dans les grands photographes, probablement connus par Edwin Blumenfeld, il y avait Élie Lothar, par exemple, qui avait beaucoup utilisé les abats des différents abattoirs, n'est-ce pas, et photographié directement ça aussi, une personne que connaissait bien Blumenfeld à l'époque, qui est Wolfs, et probablement également toute cette ambiance autour de batailles, de boisfards, bataille qui dit le lieu le plus sacré aujourd'hui dans la ville, c'est le lieu du sang, c'est l'abattoir. Donc la question de la dépouille est importante à l'époque. Quel était le lien, peut-être pourriez-vous nous en dire quelque chose, de Blumenfeld avec les photographes de cette mouvance à cette époque-là?
Alors Blumenfeld est venu donc à Paris en janvier 36. Son magasin de sacs pour dames à Amsterdam avait fait faillite. Et pour lui, Paris était vraiment le centre de création artistique, photographique à cette époque. Et pour beaucoup. Et je pense qu'il avait une très grande admiration pour Man Ray. Et à ses débuts parisiens, beaucoup de ses photographies se rapprochent de celles de Man Ray. Il utilise des techniques similaires, notamment de solarisation. Parfois, il les pousse même au-delà. Mais je pense qu'il était très différent de Man Ray, dans le sens où il est arrivé tout à fait sans appui, alors que Man Ray était un photographe introduit auprès de la société française. Alors Blumenfeld, comme vous savez peut-être, est venu à Paris sur l'instigation de Geneviève Rouault, la fille du peintre Georges Rouault, qui lui a dit « Venez, je vous présente entrez à la bonne société parisienne, vous ferez des photos et vous serez un portraitiste reconnu. » Et c'est ainsi qu'il a commencé. Et c'est par les premières photos des enfants de Marie-Laure de Noailles qu'il a été repéré par Cecil Beaton, qui était à ce moment-là un grand photographe chez Vogue. Et c'est grâce à Cecil Beaton qu'il a pu rentrer chez Vogue et il a commencé la photo de mode. Mais pendant ces années 36 et 37, son grand soutien a été Thériade avec la revue Verve notamment, à laquelle il a participé, donc au premier numéro de Verve. Et il est suggéré dans le texte du catalogue du Jeu de Paume par Wolfgang Brückle, qui a écrit sur le Minotaure, sur cette photographie, que Blumenfeld peut-être avait l'ambition de faire une couverture pour le journal Le Minotaure.
Pour le Minotaure, bien entendu. Voilà. Peut-être allons-nous écouter maintenant un témoignage de son installation à Paris, un témoignage écrit en fait de Blumenfeld dans Jadis et Daguerre, cette extraordinaire autobiographie qu'il a occupée pendant près de 30 ans.
Minuit avait sonné depuis longtemps. Je déambulais seul jusqu'à mon atelier, 9 rue de l'Ambre, à 100 pas du Dôme. Jamais rangé, il était aujourd'hui crasseux. Je n'y travaillais pratiquement plus depuis un an. Pendant mon séjour en Amérique, ma femme était allée en Bretagne avec les enfants et elle s'en était servie comme débarras. Le sol était jonché d'un tohu-bohu d'habits, de vaisselle, de livres, de jouets, de photos. Des lampes poussiéreuses pendaient et traînaient partout. La grande fenêtre donnait sur la cour du commissariat qui se trouvait dans la maison voisine. Je la fermais par prudence. Des agrandissements géants pendaient au mur. Une photo de 2 mètres de haut représentant un torse drapé de soie mouillée s'était décrochée et flottait, tridimensionnelle dans l'espace. Le Christ de Beauvais rivalisait de tristesse avec celui de Klaus Sutter de Dijon. Chaque image était un roman. Un détail de la tapisserie gothique, le bal des sauvages, Notre-Dame de Nantilly à Saumur. Le nu plus grand que nature de la Carmen octogénaire, le modèle de Rodin pour le baiser. Les cathédrales de Laon et de Rouen, en raccourci à longe. Le long visage de Manina endormie, fixant le vide de ses yeux clos. Comme je prends la beauté au sérieux. Tous mes portraits reflètent ma vision. L'artiste vit des variations d'un seul et unique thème. «
avant Brandebourg, on a cette description que fait Blumenfeld de son propre atelier lorsqu'il arrive à Paris, rue de Lambre. Et il le décrit véritablement comme une scène, c'est-à-dire comme un dispositif scénographique avec des éléments qui participent à son imaginaire. C'est comme ça que fonctionne votre propre atelier ?
Malheureusement, non. J'ai mon atelier, je veux dire, les éléments, j'ai un archive. Je veux dire, on ne les voit pas, ils sont tous dans des tiroirs. Et j'ai plusieurs archives, lesquelles je regarde souvent. Mais mon atelier, c'est en ce moment très petit, c'est 14 mètres carrés. Il n'y a qu'un ordi dedans.
Les ateliers des artistes d'aujourd'hui sont souvent des ordinateurs.
À Paris, surtout.
Ouais.
Ça, c'est un problème des artistes à Paris. Et quand je fais des grandes œuvres, je loue des grands espaces à l'extérieur de Paris.
Est-ce que vous trouvez que ça ressemble, la description qu'il en fait, ressemble à une installation qui pourrait être une de vos installations ?
Oui, en fait, avec Blumenfeld, ça m'a frappé son... Par exemple, cette photo qu'il a faite de lui-même, je crois, il avait 15 ans seulement. Il s'est déguisé comme Pierrot, il a fait un miroir. Et il a aussi dit de cette photo qu'il n'y a pas de photo sans miroir, il n'y a rien sans miroir. En fait, sans être narcissique. Et cette double portrait, cette ambiguïté entre soi-même et les miroirs, ça joue aussi souvent dans mes films. Et après, ça m'a aussi intriguée comment il... Parce que d'abord, il fait des photos, évidemment, comme tout le monde, en noir et blanc. Et quand il passe à la couleur, que la couleur, il l'utilise comme un peintre. Que la couleur devient très, très... Je veux dire, il y a le jaune et le rouge. Et il l'utilise... très très consciemment, et ça m'a intrigué beaucoup. Et évidemment aussi ça, son rapport avec la scène ou la scénographie, ou aussi on peut dire cette Minotaure, c'est très théâtral, c'est un déguisement, et comment il joue avec ces éléments très peu et très puissants.
Nadia Blumenfeld, Jarbid, vous vouliez réagir, je pense, à ce que disait Oula von Brandebourg.
Oui, alors une des premières vocations de Blumenfeld, c'était d'être acteur. Il adorait le théâtre berlinois. Il allait voir beaucoup, beaucoup de pièces de théâtre. Et puis, sa deuxième vocation, il a voulu être peintre. Et effectivement, il a dessiné. Et au jeu de paume, il n'y a pas de tableau à l'huile. Mais il y a beaucoup de ses dessins des débuts. Puis après, il passe dans les montages avec des photographies. Effectivement, sa première photographie de lui-même en Pierrot dans le miroir, il a 11 ans. Et il dit, je pense qu'il y a une vie derrière le miroir. Seuls les fous appellent cela le complexe de Narcisse. Il n'y a pas d'art sans miroir, pas de musique sans écho. Et effectivement, beaucoup plus tard, quand il fait la photo couleur, et vraiment pour lui, c'est une véritable seconde passion, la couleur et l'utilisation de ce médium. Pour pallier à la frustration des limites à ce moment-là, des moyens de la photo couleur, et du fait que la maîtrise complète qu'il avait pour le noir et blanc, c'est-à-dire de la prise de vue jusqu'au tirage final, lui est un petit peu enlevée, puisque les développements se font à ce moment-là par des gros labos, eh bien il utilise toutes sortes d'artifices colorés dans son studio. Souvent il peint lui-même ses décors, et sur certaines photographies de mode, on peut constater que dans l'arrière-fond, il y a un décor peint par lui, et il peint des sculptures, il les peint de différentes couleurs, et il utilise beaucoup de lumières colorées également.
On dit que son éducation dadaïste, en tout cas son esprit dadaïste, a continué d'habiter son travail extrêmement longtemps. Et sans doute à cause de ce goût de la combinaison, ce goût du découpage, ce goût de l'apport, du travail en chambre noire plutôt que directement sur la prise de vue. Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez juste ?
Oui, je trouve cela très juste. Moi, j'ai eu, quand j'ai travaillé notamment sur tous ces hectachromes et kodachromes couleurs pour monter une exposition avec le musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône, on s'est aperçu que de nombreux hectachromes et kodachromes, des plans films, étaient découpés carrément au ciseau, qu'il y avait parfois des petits morceaux de films collés les uns sur les autres, et il y a même des fois où, quand on scannait le document, les éléments se mettaient à bouger.
C'est vous-même, Oula Van Brandebourg, c'est une méthode de travail qui est un peu la vôtre, bricoler, ajouter, mettre un miroir ici, un verre dépoli là, un calque un peu plus loin, renvoyer les figures. Dans l'exposition, il y a énormément de représentations, de photographies de son atelier, de lui dans son atelier. On voit un petit peu cette combinaison spatiale comme ça qu'il organise, qui ressemble parfois au vôtre.
Oui, surtout, je veux dire, le collage... ça veut dire de collectionner plein des choses et de faire et de collecter des choses de différents thèmes ou champs et de faire quelque chose de nouveau avec ça. Ça, c'est une méthode que moi j'utilise beaucoup, surtout aussi dans mes films où je fais toujours ces trucs que je collectionne, disons, plein des différents poses ou des thèmes qui m'intéressent et après je les montre l'un après l'autre. Et ça raconte une histoire d'abord, mais c'est pris des autres champs.
Parfois, vous vous servez de très peu de choses pour raconter une histoire. Je pense par exemple à une des œuvres très mystérieuses, très simples que vous avez fait, dont vous nous rappellerez le titre. C'est une canne qui est posée contre un mur, et la l'ombre portée de cette canne est une longue cravate qui est sur le sol, posée sur le sol.
Oui, ça s'appelle Stock mit Schatten, ça veut dire canne avec ombre. Et ça, c'est aussi une image évidemment surréaliste et dadaïste, parce que la canne et les cravates, c'est quelque chose que aussi Bunuel et tous les
mais
autres...
Mais que l'on voyait chez Georges Grosch également tout exact, le temps, évidemment.
Ils ont beaucoup utilisé. Alors moi, je ne suis pas du tout la première d'utiliser ces éléments-là. Mais oui, pour moi, c'était aussi, je veux dire, le miroir en ce moment-là, c'est la cravate, si on veut. Et la cravate ne montre pas l'image propre. Ça montre quelque chose complètement différent, comme le miroir aussi peut montrer quelque chose complètement différent. Et cette ambiguïté entre la réalité et la réflexion ou l'ombre ou cet autre moi ou une, je veux dire, si on veut rentrer dans une lecture plus psychologique, ça m'intéresse beaucoup. Et aussi comme Alice dans les Pays des Merveilles, qui rentre dans le miroir et qui découvre qu'est-ce qu'il y a derrière le miroir.
Louis, ce qu'il y a derrière le miroir vous intéresse énormément. D'ailleurs, beaucoup de vos œuvres sont, par exemple, des rideaux de scène composés d'éléments qui sont comme le costume de l'Arlequin, composés donc de différentes représentations de l'idée de ce qu'est la société, des vêtements riches, des vêtements pauvres, etc. Et vous proposez cette entrée dans la fiction. Cette entrée dans la fiction, je trouve que Blumenfeld nous y attire très facilement dans beaucoup de ses représentations et parfois avec un minimum de signes. Je pense par exemple à cette photographie incroyable, et là on est bien loin des scènes politiques auxquelles nous faisions allusion, qui est cette fameuse photographie qui est en couverture du Vogue de 1950. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Madame Blumenfeld ?
Oui, donc vous parlez de l'œil de biche.
L'œil de biche. Oui.
C'est Jean Patchett qui est le modèle. Donc c'est c'est une photographie noir et blanc. Ça surprend toujours quand on dit ça.
Oui, parce qu'on voit que l'œil donne l'impression d'être maquillé, la bouche très rouge, il y a un point noir, le fond est blanc quasiment uniforme.
Alors c'était un noir et blanc, il y a le visage entier de Jean Patchett, puis il a effacé les différents éléments jusqu'à ne garder que l'œil, la bouche et la mouche. Et ensuite, cette photographie a été colorisée par Vogue. Pour la couverture.
Mais sous son contrôle, j'imagine.
Sous son contrôle, mais il y a un livre qui s'appelle The Art and Technique of Color Photography de Alexander Lieberman, qui était le directeur artistique de Vogue à l'époque, et Blumenfeld dedans légende cette photo en disant « Je rends ici grâce au service de Vogue qui a colorisé ma photographie ». Donc il s'agit vraiment d'une œuvre ici de collaboration entre un grand directeur artistique et je pense que si on lit l'autobiographie de Blumenfeld, on voit qu'il en dit beaucoup de mal.
Oui.
cependant, parfois, ils avaient leur utilité sans doute.
C'est bien de laisser flotter une certaine incertitude sur la question. Vous voyez Oula Van Brandebourg, de quelle photo nous parlons ? Est très étrange, une sorte de haïku photographique en fait. Hein. Très peu de signes, un petit peu comme votre canne et cette cravate, avec très peu de signes. Ouais. L'imaginaire se construit.
Ouais. Ouais, pour moi, c'est intéressant qu'il vient... En fait, c'est un peu l'inverse qu'Andy Warhol, parce qu'Andy Warhol, il est venu de la pub. Il a fait beaucoup des pubs, des photographies, tout ça. Et après, il est rentré dans l'art, et Blumenfeld, il fait un peu le chemin à l'envers, quoi, un peu dur, je veux dire, peut-être pour les artistes, de regarder comment on peut faire de l'art et être, je veux dire, faire des photographies, des magnifiques choses, et après de rentrer dans la publicité, ce que moi, par exemple, je voudrais éviter.
Oui, alors Blumenfeld disait « j'introduis l'art en contrebande dans la publicité, smuggling art », parce qu'il espérait toujours élever le regard du spectateur et continuer à avoir une certaine exigence artistique, malgré les desiderata des directeurs artistiques, justement, et notamment lorsqu'il a des contrats publicitaires.
Mais il n'a pas arrêté, en tant qu'artiste et publicitaire, d'être artiste. C'est-à-dire que sans cesse, c'était une invention. J'étais stupéfait de voir qu'il n'y a pas une photographie dans laquelle il n'y ait pas une trouvaille, une découverte, une manipulation, un esprit. Mais, donc tout ça a commencé dans les années 30. Donc je vous propose d'écouter encore une fois Blumenfeld nous raconter le contexte des années 30 et sa décision d'être photographe.
En l'an de grâce 1932, je pus, avec un mot de recommandation, présenter mes meilleures œuvres au mandarin infaillible de la photo, Korff und Kröner, Dolstein à Berlin. De l'aveu de tous, il s'agissait de gâchis de matériaux, sans talent, voués à l'échec, vides de sens, inutiles. Cet arrêt de mort me laissa froid. Je savais que j'étais photographe. C'est ce genre de compréhension que j'ai rencontré chez maints rédacteurs en chef et autres, même chez ceux qui n'avaient pas à trembler sous Hitler. Si malgré cela, des milliers de mes photos ont paru, ce fut grâce à l'incertitude générale du goût. Je puisais un encouragement supplémentaire à travailler comme photographe pour le film Pension Mimosa de Jacques Feder. Et du même coup, je constatais mon inaptitude à la production artistique collective. Plus que tout autre, j'ai une dette de reconnaissance envers le Führer Schickelgruber. Sans lui, j'aurais croupi dans les marais hollandais. Sans lui, jamais je n'aurais eu le cœur de me faire photographe. Il m'a tiré de ma tour d'ivoire pour me lancer dans la vie. En remerciement, la nuit de la prise du pouvoir, j'ai fait un photomontage de sa sale gueule avec une tête de mort. Puis, sous, j'ai couru dans la nuit les 25 km d'Amsterdam à Ardenhout. En 1942, cette photo inonda l'Allemagne par millions d'exemplaires sous forme de tract américain avec l'inscription « Heil Hitler ».
Nadia Blumenfeld, il décrit cette photographie qui inonde par millions l'Allemagne. Cela est presque, on frôle la fiction, non ?
Oui, je crois que c'est un des rares moments dans l'autobiographie, alors qu'il s'appelle en allemand « Einbildungsroman » et en français « Jadis et daguerre », où on frôle la fiction. On n'a pas pu vérifier cette anecdote, si vraiment les Américains avaient fait des tracts à partir de cette photographie. Mais j'ai entendu par moments certains journalistes dire « c'est une autobiographie très fantaisiste ». Or, au contraire, elle est extrêmement précise et factuelle.
Très scrupuleuse, en effet.
Très scrupuleuse, hormis peut-être cette anecdote, mais un jour, il se trouvera peut-être quelqu'un pour nous ramener un tract. Qui sait.
Il y a eu des timbres qui ont été gravés à partir de cette photographie et diffusés par la résistance en Suisse à cette période-là, si j'ai bien lu, vers la France ou vers l'Allemagne.
Oui, tout à fait. J'ai vu... Alors, Blumenfeld est un grand collectionneur de timbres lui-même. Mais j'ai vu effectivement dans l'article du catalogue du Jeu de Paume une planche de timbres, probablement à partir de cette photographie.
Alors, il y a quelque chose qui est étrange. On écoute sa vocation photographique qui a commencé un peu plus tôt parce que, si je me souviens bien, il a eu un cadeau de son père qui était un appareil photographique et il décrit assez longuement la prise parce qu'il avait été opéré de l'appendicite. D'ailleurs, suite à une simulation, je pense, il n'était pas aussi malade qu'il le prétendait. Sans doute, ne voulait-il pas aller à l'école ou quelque chose comme ça, non ?
Oui, je pense qu'il avait une version latine. J'ai connu ça plus tard et je n'ai pas simulé l'appendicite, mais à cette époque, époque-là, apparemment, c'était une maladie à la mode. Et on l'opère, et pour le féliciter donc de sa bravoure, son oncle, qui était un photographe amateur, mais assez éclairé, lui offre un appareil photo. Et là, il commence ses premières photographies qu'il développe dans les toilettes de ses parents à Berlin.
Alors, cette première photographie qu'il décrit, il en décrit dans un livre toute la composition, très complexe, avec une Moïse de Michel-Ange, une pomme de terre, une brosse à dents, enfin, tout un ensemble de compositions. C'est pas du tout la photographie que prenne un enfant auquel on donne un premier appareil photographique, qui va prendre un paysage, le visage de sa mère, ça, c'est déjà une construction. Où là, vous avez, quelle a été votre première photographie? Je sens que vous avez oublié.
Oui, une bonne question.
Et alors?
Moi, j'ai beaucoup dessiné, je veux dire.
Comment ça a commencé?
Ouais. Et je crois que c'est aussi, et comme d'abord, je crois Blumenfeld aussi, parce que la première chose est un crayon avec laquelle on fait une ligne sur un papier.
Toujours. Et la peinture vient ensuite, ce qui a été son cas, les collages. Son amitié à l'école avec Paul Citroën a été très importante. On se souvient que Paul Citroën, non seulement a été un ami permanent dans son existence, mais aussi en tant qu'élève du Bauhaus, élève de Eaton, pour lequel il avait beaucoup d'admiration, un contact très utile avec le milieu du Bauhaus, Molly Nodge, par exemple, et d'autres. Et d'ailleurs, quand on parle de son admiration pour Man Ray, on pourrait aussi parler de son admiration pour Molly Nodge, parce que peut-être que le travail sur la lumière, les rayogrammes viennent de là, ou les shadowgraphies.
Oui, oui, je pense qu'il est, grâce à Paul Citroën, était tout à fait en contact avec le milieu artistique, grâce aussi à son grand ami et celui qu'il admire peut-être le plus artistiquement à ce moment-là, c'est Georges Grosz.
Alors, il raconte sa rencontre avec Georges Grosz dans une pissotière, où Georges Grosz fait un jet magnifique et particulièrement bien contrôlé, avec lequel avec ce jet, il arrive à dessiner la silhouette de Blumenfeld. Et Blumenfeld a été épaté par ce visage surgi dans les toilettes, et fait de, je n'ose pas dire de main de maître, mais enfin fait de façon magistrale en tout cas. Voilà.
C'est... Qui rappelle aussi aux peace paintings de
Andy Warhol. Ouais. Andy Warhol. Hein, que, je ne sais pas si vous avez fait des rencontres comme cela, mais sinon, il y a un aspect qui m'intéresse beaucoup, et je voulais vous le demander, Oula van Brandebourg. Chez Blumenfeld, on voit tout de suite une passion dévorante pour les revues d'avant-garde, les artistes d'avant-garde, la situation d'avant-garde. Vous, vous êtes une grande lectrice, une érudite aussi, plus anthropologie ou plus le temps dans lequel nous sommes?
Les deux. Il faut pas perdre le temps dans lequel on vit, mais moi je suis, et je suis demandée quel artiste est le artiste le plus important pour moi. À cette question-là, je ne peux pas répondre parce qu'il y a toutes sortes de choses qui nourrissent mon travail, et moi je suis juste à la fin d'une longue histoire, mais pas que dans l'art, aussi dans la littérature, dans le théâtre, dans la musique. Tout ça me nourrit énormément, et moi je suis à la fin d'une longue histoire. Ça veut dire aussi, moi je n'invente pas beaucoup moi-même. Moi je prends les choses et je donne une nouvelle forme, une forme à laquelle je crois c'est actuel. Et c'est pour ça aussi, je veux dire, c'est pas que l'histoire, évidemment, où je me trouve pas que dans l'histoire, c'est aussi, c'est quoi qui est intéressant aujourd'hui?
Oula van Brandebourg, c'est pas pour forcer le trait de la ressemblance, ce qui est toujours un peu artificiel, mais néanmoins, vous savez que j'admire profondément votre travail. Et il y a un point que je trouve assez commun, c'est que il n'y a pas de réalisme, je crois, dans le travail d'Erwin Blumenfeld. Vous nous détromperez, Nadia Blumenfeld, si vous n'êtes pas d'accord. Mais j'ai l'impression que les modèles qu'il utilise sont beaucoup plus des personnages auxquels il invente un contexte psychologique, psychique, imaginaire, que des portraits réalistes. Est-ce que c'est votre sentiment quand vous regardez le travail de Blumenfeld, et est-ce que c'est quelque chose qui ressemble à votre démarche?
Mais pour moi, c'est important que Blumenfeld lui-même, il a dit qu'il est surréaliste ou dadaïste, et aussi, par exemple, qu'il a utilisé cette mythe ancienne de Minotaure, parce que c'était les surréalistes qui pouvaient réinventer et réinterpréter les mythes grecs, mais aussi avec l'aide de Freud. En fait, tout ça, pour moi, c'est possible après Freud, et moi, je suis très intéressée par toutes sortes des images psychologiques. Et dans mes films, par exemple, moi, je suis beaucoup intriguée par des poses, mais ce ne sont pas les poses mêmes, ce sont des gestes qui veulent dire quelque chose. Ça veut dire que ce sont tous des métaphores pour des conditions psychologiques et à la fin aussi pour des conditions humaines. Et c'est quoi notre civilisation aujourd'hui, dans quelles conditions de civilisation on vit. Et pour ça aussi, j'aime beaucoup le travail de Blumenfeld. Cette question de jouer un rôle ou de se déguiser, ce qu'il fait lui-même assez tôt, ça veut dire, c'est quoi un rôle, ou comment on peut aussi dire, je joue un rôle, mais peut-être il y a quelque chose comme le monde différent derrière, ou je joue plusieurs rôles, je suis plusieurs êtres.
Nadia Blumenfeld, qu'en pensez-vous ?
Oui, je crois que c'est très juste, en fait, ce que dit Oula. C'est Blumenfeld a toujours une composition assez mixte. Je pense qu'il était assez influencé, parlait beaucoup avec sa femme. Vous parliez tout à l'heure de ma grand-mère, Lena Citroun, qui était psychologue et qui était tout à fait freudienne. Et j'ai reçu en héritage toutes les œuvres de Freud, d'Anna Freud, de Marie Bonaparte, etc. Et je pense que Blumenfeld était très, très intrigué par le double caractère dans chaque image. Et moi, vous avez fait, je crois, une œuvre qui s'appelle Le Chevalier inexistant. C'est d'après Calvino. Mais Blumenfeld, ce serait plutôt le vicomte pourfendu, parce qu'il y a énormément d'images qui sont coupées en deux. Un
ou
profil
en diagonale,
sur une face,
de...
ou parfois même un portrait de femme, où il a découpé la partie du milieu du visage et il lui a fait opérer une translation. Qu'est-ce que vous pensez de cette image-là, de cette femme solarisée ? C'est un portrait où carrément une partie du visage se trouve déportée. Et moi, je suis grande admiratrice de Calvino et je trouve que effectivement cette relation psychologique de Blumenfeld à la duplicité de l'homme, à ses doubles visages, au bien, au mal, ou au rêve, au réveillé, c'est quelque chose de très important et central dans sa photographie.
Et dans un des dessins très très tôt, il y a aussi un petit signe yin et yang qui m'a intriguée, parce que c'est en fait ça qu'on voit ensuite dans beaucoup, beaucoup des photos aussi, quand on voit un visage de femme et c'est son propre profil qu'il rencontre au milieu du visage, et aussi les dessins très tôt où il faut des confrontations de deux, trois visages, aussi les yeux qui se... En fait, on n'est jamais seul, ça ne suffit pas de dire blanc, il faut aussi dire noir en même temps, parce que sinon c'est pas complète.
C'est toujours une ambivalence assez, assez étrange. Alors, nous allons écouter un poème de Robert Desnos qui va évoquer à nouveau cette figure du Minotaure à laquelle nous allons maintenant revenir.
À manger son propre sang en tartine sur du pain, à boire l'eau de l'étang où les morts prennent leur bain, à prononcer des paroles nées de cœurs empoisonnés, à fréquenter les écoles des esprits emprisonnés, à marcher sur le chemin où l'on marche avec les mains, le Minotaure a vieilli, loin des siens et du pays. Il va retrouver les sphinx, les licornes et les lynx qui lui disent « il est tard ». Déjà l'on ferme l'enceinte. L'homme salera ton lard dans un coin du labyrinthe. Mugis encore si tu peux. Minotaure de rien. Minotaure de peu. Robert Desnos.
Alors voilà un extrait de Destinée arbitraire, un recueil de Desnos, en effet, dans lequel la figure du Minotaure apparaît. Alors, je voudrais revenir sur ce moment où, en 1932, Erwin Blumenfeld est à Amsterdam et dans l'arrière-boutique de son magasin de sacs pour dames, il crée un atelier. Et dans cet atelier, il commence à se livrer à une activité photographique et commerciale d'ailleurs assez intense. Et très rapidement, il va être connu, puisque en 1935, c'est-à-dire 3 ans plus tard, il est déjà dans une grande exposition à Paris aux arts décoratifs, une exposition sur l'avant-garde au fond de la photographie. Comment est-ce que ça a pu aller si vite ? Madame Blumenfeld.
Je crois que c'était un travailleur infatigable. Au début, il a donc trouvé dans son second magasin sur la Kalverstraat à Amsterdam une chambre noire qui existait. Et il s'est mis à faire de la photographie et à photographier les femmes qui venaient acheter des sacs dans sa boutique. Et toutes les semaines, il refaisait ses étalages avec des portraits de femmes. Et très vite, il a eu un marchand à Amsterdam qui s'appelait Karl van Leer, parce qu'il avait quand même eu des contacts grâce à Paul Citroën avec l'art. Il avait voulu être lui-même marchand au début à Amsterdam. Et donc, je pense qu'il avait déjà des contacts chez différentes personnes. Et il a eu une exposition, effectivement, en 1935 à Amsterdam aussi, chez Karl van Leer. Et il a participé à une exposition collective aux arts décoratifs.
Donc son travail a été tout de suite remarqué, mais il faut dire que quand on voit les premières photographies qu'il fait des visages des dames qu'il choisit, il y en a une tout de suite qui est le visage de Tara Twain, qui va servir de publicité pour son propre travail et qui est déjà une photographie pour l'époque d'avant-garde, c'est-à-dire cadré extrêmement serré, peut-être sous l'influence, ai-je lu quelque part, du film d'Eisenstein, Potemkin, et donc ceux qui voulaient venir se faire photographier, ce n'étaient pas des photographies mondaines qu'il leur proposait, c'était véritablement des photographies tout de suite qui étaient dans l'avant-garde. Quand vous avez vu les portraits de cette époque-là d'Erwin Blumenfeld ou d'Avan Brandebourg, vous avez ressenti ce désir permanent de modernité ?
Oui, tout à fait. Et aussi, moi, j'ai vu quand même une parallèle aussi avec Man Ray, dans tous les portraits, mais aussi d'abstraction, d'essayer de faire abstraction avec la photographie, qui n'est pas évident parce que à la base, la photographie est le contraire de l'abstraction. Ça veut, je veux dire, c'est la réalité que ça montre, et avec ces qu'il réduit et il essaye de encore de plus en plus réduire avec des lignes et que on devine. Qu'est-ce qu'il a fait comme photo, et aussi les masques qu'il a fait avec les tissus. Moi, j'ai fait moi-même un film avec un fantôme en fait, et il y a deux choses qui m'a aussi intéressée, parce qu'il a fait un portrait dans une boule de miroir où on voit lui-même dans le moment où il appuie évidemment sur la caméra dans cette boule miroité, où on voit aussi son studio, et après aussi c'est les dames avec la soie ou je sais pas, une sorte de masque, on voit pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Et moi j'ai fait un film dans un boule de miroir où un fantôme apparaît, c'est moi en dessous d'un drap, et je déclenche la caméra super 16 mm et cette caméra filme lui-même, évidemment, la caméra même, mais aussi le fantôme qui disparaît. Et ça, c'était un film pour montrer, en fait, c'est finalement un fantôme pourrait montrer qu'il existe. Comme réponse aussi pour toute cette photographie autour de 1900, est-ce que c'est vrai ou pas, et qui a aussi influencé beaucoup les surréalistes, évidemment.
C'est la photographie de la fantasmagorie qui a fasciné les surréalistes. Alors, vous évoquez, ou l'Avant de Brandebourg, la figure de Man Ray. Vous avez dit, Nadia Blumenfeld, Charby, tout à l'heure, que Man Ray avait été un artiste admiré par Blumenfeld. Pourtant, je ne suis pas sûr, y a-t-il eu des relations directes entre eux ?
Je ne suis pas sûre. En tout cas, ils n'étaient pas particulièrement amis à Paris. Man Ray évoluait dans des cercles beaucoup plus mondains, je pense, que Blumenfeld.
Pour moi, c'est une des grandes surprises de l'exposition, non pas de voir que Blumenfeld fait partie des artistes de cette période qui sont au niveau de Man Ray, bien entendu, et ça ne se discute même pas, mais de voir que cet artiste, admirant les surréalistes, lisant les revues, souhaitant avoir probablement une de ces images en couverture de la revue Minotaur, n'a, avec les grands surréalistes, pratiquement aucun contact établi. On ne le voit pas parler avec Breton, on sait qu'il a photographié Dali et Gala, mais on n'a aucune trace d'une union avec le milieu surréaliste. Alors c'est un mystère pour moi, et donc j'espère que Nadia Blumenfeld, vous allez nous éclairer là-dessus. Et peut-être est-ce là l'un des sens cachés de l'œuvre que nous allons examiner encore pendant quelques minutes.
Là, vous me posez une question délicate. Je ne sais pas si Blumenfeld a essayé de faire partie du groupe surréaliste. Je pense que Breton est une figure qui avait une énorme influence à ce moment-là à Paris, quand il est arrivé, et avait aussi des règles extrêmement strictes. Et Blumenfeld n'était pas quelqu'un qui aimait obéir aux règles.
C'est effectivement une hypothèse intéressante de se dire qu'il y a une distance quasiment idéologique par rapport à l'idée de ce qu'est un dictateur, le dictateur d'un groupe, entre Blumenfeld et Breton. Quand Francis Picabia va reprendre l'image de Blumenfeld, il va représenter en 42, donc c'est 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, il va représenter ce grand taureau, ce grand minotaure, avec des mains qui sont en train de l'implorer ou de l'adorer, reprenant une représentation antérieure, effectivement, de cette image, dans laquelle Blumenfeld a lui-même mis deux mains sur le personnage. L'effet est très ambigu. Et dans les commentaires du Centre Pompidou, puisque cette œuvre est rentrée en 2007 dans les collections du Centre Pompidou, l'auteur, qui n'a pas signé, laisse entendre que cette adoration du veau de Picabia serait une ironie à l'égard d'André Breton, qu'il appellerait le dictateur et qui, donc, aurait un comportement tout à fait opposé à ce qu'est l'esprit du dadaïsme. Qu'est-ce que cette remarque vous inspirerait, Madame Blumenfeld?
Alors, c'est vrai que le mouvement dada par rapport aux surréalistes, c'est chacun se proclamait ce qu'il voulait. Blumenfeld s'était proclamé président de la centrale hollandaise. Et je pense que c'est peut-être un détournement par Picabia de l'œuvre de Blumenfeld. Blumenfeld a donc fait cette œuvre en 37. Elle a probablement été exposé pour la première fois à la galerie de Pierre Worms, rue de la Boétie, dans une exposition collective qui s'appelait l'Art cruel. Et je pense que cette œuvre s'est d'abord intitulée Le Minotaure, comme disait Oula tout à l'heure.
Exposition dans laquelle il y avait également André Masson, qui était pourtant un pont facile avec aussi ce milieu.
C'est vrai. Et probablement en référence à tous les dictateurs que Blumenfeld pressentait et qui étaient là, puisque c'était la guerre d'Espagne tout de même. Donc en référence probablement pas spécifiquement à Hitler, mais également Franco et Mussolini.
Et à toute autorité, au fond, qui était contestée.
Alors, donc Breton, je ne vais pas m'avancer pour
donc Blumenfeld vous plaider, et certainement à juste titre, pour un sens très ouvert de la lecture de cette photographie. Est-ce que vous pensez aussi, Oula von Brandebourg?
Oui, mais pour moi aussi, ce que je trouve important est que le Minotaure, que c'est une métaphore pour la dégradation d'une civilisation. C'est une civilisation qui est en train de descendre. Et pour ça, évidemment, une très bonne et juste image pour le Troisième Reich. Et aussi, quoi, intéressant, parce qu'on voit... En fait, cette image, on peut, si on dit, ok, c'est Hitler, si on voit le visage d'Hitler, on voit pas toute cette cruauté, on voit pas toutes ces morts qui sont venues de son visage qui est complètement, je veux dire, est-ce qu'on peut voir la cruauté de quelqu'un? Et tous les nazis qui étaient très gentils à la maison avec leurs enfants et ils ont fait des trucs horribles. Ça, je trouve intéressant. Avec cette photo, mais aussi que c'est pas Hitler, je veux dire, c'était la civilisation qui a élu Hitler. C'était pas, je veux dire, évidemment, il était horrible, mais c'était aussi les gens, c'était beaucoup, beaucoup des gens antisémites qui ont fait le Troisième Reich. Et ça, c'est important que c'était Hitler, il a utilisé la haine et tout ce pouvoir des gens. Et c'est ça. Je veux dire, c'est pas Hitler lui-même, c'était aussi, il a fait ça avec tout le monde ensemble.
Oui, il y a quelque chose de très collectif, malheureusement, et c'est ce qui rend la chose tragique. Et ce que l'on peut dire, c'est que Blumenfeld en a souffert sans arrêt dans sa vie de cet aspect totalitaire des guerres et de l'existence, cette période très troublée, puisque déjà en 1918, il avait participé à la guerre de 14-18, et ça s'est terminé pour lui de façon terrible. Vous pouvez le rappeler peut-être, Nadia Blumenfeld.
Oui, alors il y a eu... Donc il était soldat allemand en France, au Chemin des Dames, et ambulancier, et puis tenancier de bordel. Mais ce qui a été deux événements très tragiques pendant ce conflit ont été la mort de son frère, de son jeune frère Heinz, à 18 ans, en 1918, en France, et aussi le fait qu'il a cherché à déserter en 1917, et que c'est sa mère qui l'a dénoncé aux autorités. Elle a d'ailleurs dit plutôt mort que traître.
C'est terrible. Et donc il s'est enfui suite à cela en Hollande, où il a eu du mal à obtenir l'asile simplement.
En Hollande. Il y a eu quelques épisodes. Non, il a épousé donc ma grand-mère qui était hollandaise et elle est par ce fait devenue allemande. Mais lui n'a jamais pu avoir la nationalité hollandaise parce que sur la plage où ils habitaient à Zandvoort, à l'époque on portait des maillots de bain avec des bretelles, une bretelle avait glissé sur son épaule et il a été arrêté, il a eu un casier judiciaire et donc il n'a jamais pu devenir hollandais, ce qui fait que quand la guerre a éclaté en France en septembre 39, il était étranger indésirable et il a été interné ensuite dans les camps français.
Comme l'ont été également Hans Bellmer et Max Ernst pendant un an et demi. Donc c'est un sort qu'on réservait donc aux Allemands en France, à quelques Allemands en France en tout cas. Et les péripéties ont continué puisqu'ensuite il est parti aux États-Unis où il a fait cette carrière extraordinaire. Oula von Brandebourg, cette carrière extraordinaire, cette diversité, cette façon d'avoir presque plusieurs personnalités à l'intérieur d'une grande œuvre, d'être parfois très politique, parfois très fantasmatique, parfois très rêveur, élégant. C'est possible d'endosser toutes ces personnalités sans perdre le sens de l'œuvre. Qu'en pensez-vous?
J'espère. Et j'ai pas encore... Il a eu 72 ans quand il est...
Oui.
Exactement. Ça veut dire que j'ai encore quelques années devant moi pour essayer.
Ah, les femmes vivent plus longtemps.
D'accord. Il est mort en 69 à Rome. Et je pense que nous avons parlé d'un des plus grands artistes du XXe siècle. Il me reste à vous remercier profondément. Merci Nadia Blumenfeld-Charby. C'est vos commentaires... à la fois ému et passionné sont très intéressants. Merci infiniment Oula von Brandebourg. Et je suis heureux de cette sorte de compagnonnage mental que vous avez avec ce grand artiste.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs. Aujourd'hui, nous avons parlé d'une photographie de 1937 intitulée Le Minotaure d'Erwin Blumenfeld. Durant l'émission, vous avez pu entendre des musiques du groupe originaire de Toronto, Doumé Singh, signé sur le label militant Constellation, fondé en 97 à Montréal et connu pour sa contribution au mouvement post-rock et son anticapitalisme prononcé. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. Attaché d'émission Claire Poinsignon, lecture des textes Estelle Clément-Bellem, à la technique Catherine Déreté, réalisation Vincent Abouchard. Les Regardeurs, une émission de Jean Deloisy et Sandra Adam.
Babe, come until you go.